C'est pas une vache, c'est un pangolin. Une émission proposée par Maxence Gross avec la complicité de Daniel Raffalin. Maxence Gross a suivi le souffle de l'aventure dans la jungle péruvienne en tant que guide naturaliste, à la tête de groupes de voyageurs auxquels il inculqua les valeurs de sauvegarde de la nature. Il s'adonna au même boulot sur les pistes de safari du Botswana, puis en Argentine, au Chili et en beaucoup d'autres lieux où sa curiosité et les opportunités professionnelles l'appelèrent. Au bout de 10 ans, un peu désabusé devant les attentes des touristes écolos, de plus en plus touristes et de moins en moins écolos, ils se replient sur l'Europe. Aujourd'hui, Maxence nous fait partager ses aventures.
Voilà, Maxence, après le Sri Lanka, retour, je dirais un peu aux sources, puisqu'on avait déjà été dans des émissions précédentes en Afrique, tu retournes sur les sentiers africains.
Oui, fin 2007, des amis m'ont prié de bien vouloir aller tester le service, le matériel et les itinéraires de quelques treks en Tanzanie qu'ils souhaitaient mettre en vente dans leur agence. Leur fils cadet, formé au métier de guide d'aventure dans une école québécoise, fait partie du voyage. Coincé pendant de longs mois dans notre civilisation occidentale, je suis reparti explorer la planète à l'endroit où la civilisation, précisément, a commencé. L'Afrique de l'Est, le berceau de l'humanité, est pourtant resté très sauvage, et c'est tant mieux. C'est encore un des hasards de la vie qui m'envoie ici, et la chance n'a pas fini de me sourire, écoutez plutôt ça. Mon partenaire de voyage s'appelle Vincent, un jeune homme passionné de nature et de sports extrêmes, une sorte de cousin qui s'en revient des Amériques. Du Canada, plus exactement. Tous les deux dans un énorme 4x4, nous parcourons la savane du point du jour au soir pour apercevoir les bêtes à plumes et à poils que l'Afrique veut bien nous laisser voir, et elle veut. L'habitude dans le tourisme en Tanzanie est que les blancs soient conduits par un chauffeur local, et à l'arrivée à l'hôtel, la réceptionniste demande souvent, en plus de la nationalité, du numéro de passeport et tous les détails inutiles de ce genre, le nom du chauffeur. Mais Vincent et moi étions nos propres chauffeurs, inhabituel mais légal. Un jour, dans un hôtel, un aimable employé tient avec nous cette discussion surréaliste. « Vous avez oublié de remplir la case « nom du chauffeur ».»« C'est nous qui conduisons la voiture. » »«
Ah ah, ok, très bien, mais vous pouvez juste nous indiquer votre chauffeur, c'est pour le registre. »«
Mais monsieur, nous conduisons nous-mêmes le 4x4. »
« Ok, je comprends, » répond-il avec un grand sourire. « C'est très bien, mais comment s'appelle votre chauffeur ?»
Bref, sortir des habitudes est très compliqué dans le milieu du tourisme, et plus encore, semble-t-il, pour les Africains. De même, les parcs nationaux ouvrent leurs barrières à 6h du matin, mais les guides ont pris l'habitude de réveiller leurs passagers vers 7h et de les conduire tranquillement vers 8h30-9h à l'entrée du parc après un copieux petit déjeuner. Alors qu'à l'aube, les animaux sont plus actifs et la lumière est plus belle. Élément indissociable de la vie en Afrique, le soleil se montre tantôt fort, agressif, vertical, presque toxique. Il brûle, il sèche, il fatigue, il écrase, il cogne. Mais lorsqu'il s'approche des horizons, il devient doux comme un enfant qui dort, suave comme un gâteau sucré, paisible, beau, serein. Ces instants, peu avant et peu après la nuit, sont toujours trop courts sous les tropiques. Pourquoi la langue française a donné à ces deux périodes de la journée un nom en or et un nom ridicule, l'aurore et le crépuscule? L'un comme l'autre est capable de me remplir d'une paix intense, d'effacer d'un souffle l'essaim de soucis qui bourdonne sous mon chapeau. Dans les plaines du parc national de Tarangire, en Tanzanie, ces plaines prennent soudain une autre dimension quand la brume de chaleur se dissipe autour du gigantesque troupeau de gnous et de zèbres. Contrairement à ce que je connaissais de l'Afrique, la Tanzanie est un pays de volcans, de cratères, de séismes et de montagnes. L'un de ces cratères éteints, d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, forme un écosystème extrêmement surprenant. À l'exception des girafes, la quasi-totalité du bestiaire africain, prisonnier entre ses flancs, y est représentée. Autrefois, un forgeron Maasai y vivait. Il fabriquait les meilleures cloches à vaches de Tanzanie et tous les bergers de la région se fournissaient chez lui. Ils finirent par nommer le cratère d'après le son de ses cloches, Ngorongoro. La pluie a cessé de tomber une heure après notre entrée dans le cratère et la chance n'a alors pas cessé de nous être agréable. Pas moins de 16 hyènes ont commencé par jouer et se chamailler à la première heure.
Puis, un mâle et une femelle autruche nous ont démontré comment la vie se transmet dans la savane, avec parade nuptiale et accouplement à l'appui. Je passe sur la farandole de phacochères, éléphants, zèbres, gazelles et autres antilopes, et même lions et guépards de la journée. Comme dessert, on nous a servi un serval, un magnifique chat aussi élégant que rare. Mais je garde le meilleur pour la fin. Un des trois guépards observés dans la journée a dû annuler sa chasse pour cause de trop grand nombre de voitures entre lui et les gazelles de Thompson. Il s'est donc couché dans les herbes, invisible et sans doute affamé. Les touristes, impatients, sont donc allés voir ailleurs s'ils trouvaient mieux. Quant à nous, on est revenus plus tard pour retrouver, seul, notre guépard tapi dans l'herbe, exactement là où on l'avait laissé. Pour ne pas attirer l'attention des autres voitures, on faisait mine de regarder ailleurs à chaque fois qu'un groupe passait, ou on montrait de manière ostensible qu'on était en train de manger notre déjeuner, ou de regarder la carte. C'était très efficace, personne ne voyait le guépard camouflé dans les hautes herbes. Après un certain temps, il s'est dressé soudainement, regardant fixement au loin. On avait beau chercher, mais on ne voyait pas ce qui attirait son attention. Une voiture est passée, on a mangé, elle nous a cru, elle est partie. Puis on a vu arriver une gazelle de Thompson, imprudente, que le félin avait donc repérée bien avant nous, et sans jumelles. La tension montait, la proie se dirigeait tout droit dans la gueule du prédateur. Elle était seule, inconsciente, il était tapis, concentré, les yeux vissés sur elle. Bien sûr, être le témoin d'une chasse est un événement rare et on l'espérait sans trop y croire. Un peu comme dans l'Okavango il y a quelques années, où j'avais vu une bande de lions dévorer une antilope. C'est alors qu'une traînée de poussière au loin a annoncé la fin de nos espoirs. Une voiture plantée de quelques visiteurs rougeaux s'approchait lentement, menaçant d'infléchir à la fois la direction de la gazelle et le cours du destin. Il nous restait une solution, laisser passer cette embarcation aussi habilement que toutes les autres précédemment. On a donc détourné tous les objectifs et les jumelles du carnivore pour les river sur la frêle antilope, démontrant un intérêt un tantinet disproportionné pour un animal somme toute assez fréquent dans le cratère. La tension était maximale, mais on s'est forcé de paraître parfaitement détendu. Les touristes ont donc admiré le faux objet de notre convoitise, ils l'ont même abondamment photographié, puis ils ont passé leur chemin, ignorant magistralement le mammifère le plus rapide du monde, camouflé de l'autre côté de la piste. On n'était pas peu fiers de notre coup. Une fois la voie libre, la gazelle a alors poursuivi son destin. Elle a traversé devant nous, elle s'est mise à courir sans raison apparente, ce qui n'a pas manqué de déclencher une réaction de prédateur chez le guépard, qui n'a eu plus qu'à la cueillir dans une course éclair pour nous tout seuls. Magique. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à la proie, qui a sacrifié sa vie pour notre bonheur de naturaliste, et pour nourrir un félin, et pour laquelle j'avoue que nous n'avons pas senti la moindre tristesse sur le moment. La bonne nouvelle de la Tanzanie, c'est qu'après de longues journées passées à se tasser les vertèbres dans d'inconfortables Land Cruiser, on peut se dégourdir les jambes et parcourir les paysages à pied. Jusqu'alors, au Botswana, en Zambie ou en Afrique du Sud, ce plaisir m'avait été interdit pour cause de bêtes sauvages randonneurs ivores. Ici, il semble que les lions aient compris, sans doute grâce aux Maasai, que l'être humain n'était pas comestible. Je ne me risquerai pas à leur chatouiller la crinière, mais toujours est-il que, sac au dos, on s'était lancé dans la brousse, au fond d'autres cratères, le long d'arêtes escarpées, sous des acacias à l'écorce jaune. Les chaussures de marche solidement lacées jusqu'aux chevilles, le sac à dos fermement fixé à la taille et à la poitrine, la poussière qui colle à la sueur des tempes, on s'est laissé envahir par le sentiment puissant de l'explorateur aventurier en quête de territoires extrêmes. Chapeau de cuir, menton mal rasé, peau burinée, paysage de volcans fumants et de collines ridées, l'image était parfaite, jusqu'à ce que notre cuisinier, son assistant, nous dépasse, sans effort, un immense sourire aux lèvres, sans aucune protection contre le soleil, chaussé de légères sandales, un paquet d'œufs et un thermos à bout de bras. Ils nous ont vite rappelé qu'on était des touristes comme tant d'autres et que les aventuriers, c'était eux. Ça ne fait rien, on y a cru un instant, et cet instant restera le nôtre pour toujours. L'image cassée se recollera avec l'adhésif du souvenir, et l'explorateur renaîtra de sa poussière avec le temps. Notre passage dans le bush n'a pas manqué d'attirer l'attention de nombreux bergers Maasai de la région. Au bivouac, ils se sont retrouvés en nombre autour de notre guide, lui-même Maasai, qui a organisé en notre faveur gracieusement une danse d'initiation. En réalité, les seuls qui allaient être initiés, c'était nous, à leur culture. Leurs sauts et leurs chants qui les accompagnaient nous ont beaucoup impressionnés. Bien que j'y avais été invité, j'ai limité le nombre de photos, conscient du fait que les Maasai se sentent quelque peu dérobés de leur âme si leur image est capturée par un boîtier. Il faut noter que, miraculeusement, le sort disparaît en présence d'un petit billet vert. On était un peu gênés par une telle cérémonie mise en œuvre juste pour nous deux, mais on a finalement apprécié la sincérité de toute la scène. J'ai même tenté maladroitement quelques sauts d'initiation avec eux, ça les a beaucoup fait rire. J'avais toujours cru que les Maasai, dans leurs toges de couleurs, leurs oreilles percées d'un énorme trou et leurs bracelets colorés au poignet, avaient revêtu leur costume traditionnel folklorique pour les photographes et les touristes. Tout faux ! J'ai été heureux de découvrir que cette garde-robe était leur vêtements de tous les jours, et qu'en dehors d'une montre plus décorative que fonctionnelle et d'une lampe de poche à diode, les Maasai avaient gardé un mode de vie très traditionnel. Voilà de quoi remplir de satisfaction le voyageur en quête d'authenticité que je suis. Les femmes ont le crâne rasé et portent d'immenses colliers blancs, plats comme les anneaux de Saturne. Leurs lobes d'oreilles sont également percés d'un trou assez grand pour y loger une petite fiole de tabac à priser. Pratique. Je suis toujours surpris de voir un berger ou une bergère surveiller son troupeau de zébus en plein soleil au milieu de la journée, la tête nue. N'importe lequel de nous, visage pâle, se ferait griller, rôtir, assécher comme une biscotte en moins de 2 heures dans ces conditions. Je suis aujourd'hui convaincu que notre différence ne se limite pas à la couleur de notre peau, mais est aussi physiologique. Pour remercier nos danseurs Maasai de leur performance, nous avons partagé avec eux livres d'oiseaux, jumelles et images sur l'écran numérique. Succès garanti. Mais j'ai toujours quelques remords à introduire la technologie chez ces peuples que le progrès a épargnés.
Et comme au Sri Lanka, tu es toujours en conflit avec les problèmes de discrimination.
Ouais, ça m'arrive, ouais. Lors de la suite de notre péripétie, j'ai appris que le passage de blanc dans un village évoquait non seulement une immense excitation chez les enfants, mais aussi une taxe de passage perçue par les adultes. 2 piquets en forme de Y, une perche posée au travers du chemin et un gardien. Constitue un péage simple mais efficace. D'un coup d'œil dans la voiture, le préposé compte le nombre de blancs, et le multiplie par la dite taxe relative à la taille du village, et le tour est joué. Je me demande toujours combien ils font payer un touriste noir. Moitié prix ? Cette injustice raciste n'a pas manqué de me rappeler celle ressentie au Sri Lanka dans des conditions analogues. Mais le temps et un peu de philosophie ont depuis réajusté ma vision des choses. Je me suis dit que, malgré tout, dans ce monde, il valait mieux être né dans un pays où l'on mange à sa faim, où les conditions de vie, de soins médicaux, d'indépendance et de liberté sont bonnes, et que la couleur blanche sied mieux à notre peau qu'à nos chèques. Je me dis que la chance que j'ai eue de naître blanc, je la paye sous forme de taxes dans les villages Maasai ou Sri Lankais, où les gens ont eu moins de chance à la naissance. J'ai donc accepté de payer ce que j'ai désormais appelé la taxe de la chance.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come.
Voilà, revenons à ces treks, raconte-nous.
Nous avons tenté l'ascension du mont Meru, un volcan éteint de 4585 mètres. La montée jusqu'au dernier camp se fait dans une immense forêt moussue qui laisse apercevoir le Kilimandjaro entre d'immenses branches qui dégoulinent de lichen. Au sol, les nifofia, ces fleurs jaunes tachées d'orange à la base, donnent une touche de couleur qui habille parfaitement le somptueux décor. Du dernier refuge à 3500 mètres, on part entreprendre l'assaut final à 2h du matin, pour une raison qui ne m'est pas encore très claire, mais apparemment ça se fait comme ça dans le milieu des montagnards. Soit. Au milieu de la nuit donc,
On prend sa place dans une longue procession tacite de petites lumières bleutées, rythmées par le frottement des pantalons en matière synthétique et par quelques reniflements. Très vite, faute de paysage, puisqu'il fait nuit, les yeux s'accrochent aux talons du marcheur précédent. Les notions de temps et d'orientation dans l'espace sont très floues. Seul un petit croissant au beurre suspendu dans les nuages laiteux nous indique que la partie noire tachetée, c'est le ciel. Le sentier n'en finit pas de tourner à gauche, à droite, puis encore à gauche, puis encore à droite. Plus rien ne distingue chaque zig du zag qui suit. Le souffle est court, mais en gardant un rythme régulier, l'effort est agréable. Dans la deuxième moitié de l'ascension nocturne, le sentier disparaît dans la roche brute et la balade prend une toute autre allure. L'air est de plus en plus fin, le vent glace un côté du visage, chaque pas fait travailler tous les muscles du corps. Respirer devient un effort en soi. Devant nous, la silhouette d'un rocher noir laisse espérer le sommet convoité. Erreur ! Derrière lui, un autre rocher, puis un autre, puis encore un autre. Comme les têtes de l'hydre de Lerne qui ne cessent de repousser, les faux sommets ne cessent de réapparaître derrière d'illusoires arrivées. L'effort se change peu à peu en douleur, en combat. Et il faut respirer, toujours respirer. Surtout ne pas rater un cycle. La punition est pénible et immédiate. Boire aussi, il faut s'hydrater. Mais chaque gorgée interrompt la respiration. Dilemme. Pousser sur ses cuisses, oublier la douleur dans la poitrine, dans l'estomac. Aller chercher au fond de soi le courage qu'aucune vue ne peut nourrir. Et respirer encore. Respirer. Chasser ces pensées qui nous martèlent. Mais pourquoi t'es venu ? Et le froid qui fait mal aux doigts. Une courte pause juste pour respirer, rien d'autre. Quelques pas arrachés à la montagne et encore une pause. Pour respirer. Il va bien finir par arriver, ce sommet. Peu après 5 heures, une pâle trace orangée se dessine sur l'horizon est, apportant l'espoir d'un matin et de sa lumière bienvenue. Sourire. Et puis, dans des ressources inconnues de nous-mêmes, on puise toute la force nécessaire pour abattre l'hydre. Les derniers pas se font à quatre pattes, pour s'agripper au rocher, et parce qu'à ce stade, on n'est plus qu'une bête, un animal de combat, on ne pense plus. On escalade l'ultime rocher, et là, l'accomplissement, la vue, la lumière, le Kilimanjaro à l'horizon, les accolades, balaient d'un revers de main tous ces efforts, toutes ces souffrances, comme si rien ne s'était passé avant. Tout est effacé dans l'euphorie du moment, de son drapeau tanzanien en métal, des couleurs de l'horizon. Et l'air glacial n'est pas un problème. On y est arrivé, on a réussi. On découvre enfin la terre qu'on a foulée de nuit. Au fond du cratère, un cône de cendre nous rappelle l'ancienne activité du volcan et tout le décor prend place à mesure que la lumière nous inonde. La descente permet de revivre enfin. On sautille, on court même. La lumière apparaît sur un monde dont les repères sont inhabituels. Les rayons du soleil arrivent d'en bas. Les arêtes du cratère forment des angles étranges et le soleil commence à nous chauffer, mais l'air est froid. Les plaines africaines aux alentours se dévoile et le Kilimanjaro, coiffé d'un peu de neige, se dresse solidement au loin comme une menace, une promesse. C'est notre prochaine hydre de Lerne. Le tonnerre résonne dans la nuit. Le vent glacial gifle mon visage. Je ne sais même pas si la neige tombe, elle se déplace horizontalement, elle tourbillonne. Le froid pénètre mes habits, gèle ma peau. Mes pas dans la neige sont pénibles. J'ai mal au bout des doigts, et je ne sens déjà plus mes orteils. Les flocons qui virevoltent devant moi m'empêchent de voir le sol sous mes pieds. Je suis épuisé. Je m'arrête pour souffler, pour me réchauffer les mains. Mes gants ne me protègent pas suffisamment. Je fais des mouvements circulaires avec les bras pour y faire descendre le sang. J'ai soif. J'aimerais bien boire, mais je ne peux plus. Mon eau est solide à cette température. Je réajuste mon bonnet. Je détourne mon visage du vent. Je suis en Afrique. Il nous aura fallu 4 jours pour arriver à Barafou, le dernier camp à 4600 mètres, avant de tenter l'offensive finale en direction des 5895 mètres du Kilimandjaro. 4 jours de marche en altitude, d'acclimatation, de changement de décor, de paysages fastueux et de confort sommaire. La météo avait pourtant été aimable avec nous pendant la montée, mais à notre réveil, à 23h30, la neige s'est invitée à la fête. Oui, il faut encore partir à minuit, je sais toujours pas pourquoi. Alors on se lève avant même de s'être couché. La marche est dure, le vent froid, la nuit, rien ne nous encourage vraiment à l'effort, en dehors de la promesse absolument ahurissante de vaincre le toit de l'Afrique. Une autre motivation essentielle subsiste, le lever du soleil et ses couleurs d'un autre monde. Serait-ce pour ça qu'on part au milieu de la nuit ? Seulement voilà, dans la tempête, l'espoir d'un matin clair et dégagé n'est pas assuré. Tout ce travail physique, tout ce froid, toute cette peine qu'on endure se solderait-il par une arrivée au sommet dans le brouillard avec une visibilité proche de zéro ? Quelle angoisse ! Après 5 longues heures froides d'ascension lente, on a dépassé les 5700 mètres et la seule respiration est devenue un effort redoutable. Je respire dans une bouteille de plongée vide, je tire sur ma cage thoracique, j'inspire à fond, l'air glacé entre en ressort plein de buée mais ne semble pas faire son effet habituel. Et il faut recommencer, je titube mes pas sont lents très lents, chaque pied dépasse à peine l'autre à chaque pas. Il fait toujours nuit, mais la tempête semble se calmer. Les flocons fous se dissipent, le vent diminue et disparaît, et apparaissent alors simultanément quelques étoiles et l'espérance d'un sommet sans nuages. Après une marche de 5 heures et 35 minutes, nous atteignons notre objectif dans un mélange d'euphorie et d'épuisement total. Un panneau d'information en bois recouvert de givre scelle notre victoire sur le mur des exploits personnels et nous foulons fièrement la neige encore vierge de traces. Plein de petits pas pour l'homme, un pas de géant pour mon bonheur. Le ciel est dégagé. La noirceur des cieux s'incline devant les couleurs enflammées du matin. Nos yeux, nos appareils photos ne savent plus où se tourner. Jusqu'à ce jour, j'ignorais combien les couleurs pouvaient être aussi finement nuancées. Je pense même avoir vu ce matin-là des tonalités entièrement nouvelles pour lesquelles non seulement les mots, mais aussi les pigments des gouaches manquent à notre connaissance. On a eu la chance d'observer quelques glaciers qui s'accrochent autour du cratère, mais nos guides nous ont confirmé que la neige et le froid se rencontraient bien avant le dernier jour d'ascension il y a 20 ans. J'ai voulu blâmer l'être humain pour ses effets de réchauffement sur la planète, mais j'ai baissé la tête en me rappelant que j'étais venu en avion, contribuant moi aussi au réchauffement climatique. Nous sommes restés au sommet aussi longtemps que les moins 15 degrés nous le permettaient. Puis nous nous sommes enfoncés dans l'Afrique chaude. Et en 2 jours, nous étions redescendus dans les moiteurs tropicales ardentes et nous profitions d'une agréable piscine avec vue sur le Kilimandjaro.
Quelle magie ce Kilimandjaro et cette différence entre la froideur des sommets et puis la chaleur des plaines. Nous quittons C'est pas une vache, c'est un pangolin pour ce mois-ci et on remercie Maxence que l'on peut écouter, je le rappelle, 4 fois dans le mois. Et la cerise sur le gâteau, c'est la mise en podcast ou en balado-diffusion. Je voulais insister sur ce mot-là qui est utilisé par nos amis canadiens et c'est un très beau mot. Et en balado-diffusion à l'issue de la 4e diffusion du mois. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures.